6h-7h, les petits matins de France Culture. Tout de suite, le journal Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi 5 janvier, le reconfinement de l'Angleterre, qui malgré une campagne de vaccination menée tambour battant, craint la submersion de ses hôpitaux en cause la variante très contagieuse du Covid-19 qui a donc mené Boris Johnson à reconfiner le pays jusqu'à la mi-février. Dans les hôpitaux anglais, le nombre de patients atteints par le virus a augmenté de près d'un tiers en une semaine et dépasse de 40% le plus haut pic de la première vague. En France, le gouvernement est sous le feu des critiques à cause de la lenteur du démarrage de la campagne de vaccination. Gouvernement qui a promis hier une montée en puissance rapide avec des piqûres pour tous les soignants à risque et plus seulement dans les EHPAD. D'ici ce soir et demain, il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants, a assuré le ministre de la Santé Olivier Véran. Les hospitalisations françaises pour Covid-19 ont continué d'augmenter au cours des dernières 24 heures. 380 patients sont décédés selon Santé publique France. Et puis l'Agence européenne des médicaments ne se prononce pas encore sur l'autorisation du vaccin Moderna. Ces discussions reprendront plus tard. L'agence avait autorisé en décembre dernier le vaccin Pfizer-BioNTech qui reste à ce jour donc le seul vaccin autorisé en Europe. Le politologue Olivier Duhamel a démissionné hier de toutes ses fonctions, notamment de la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques, après une accusation de pédophilie, d'agression sexuelle sur l'un de ses beaux-fils, une affaire révélée par sa belle-fille et sœur jumelle de la victime, la juriste Camille Kouchner, dans son livre La Familia Grande. Son frère jumeau a été agressé à l'âge de 14 ans. Ils sont tous les deux les enfants de l'ancien ministre Bernard Kouchner. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis Emmanuel Macron se déplace à Tours aujourd'hui pour promouvoir une réforme promise après le grand débat national consécutif aux Gilets jaunes, la réforme des pensions alimentaires. Celles-ci seront désormais versées par l'État en cas d'impayé.
Sur France Culture, le magazine de la nature et de l'environnement, Aurélie Luneau.
Le monde est en pleine mutation et une nouvelle conscience planétaire agit sur les politiques, les économies et nos sociétés. Elle transforme le collectif comme le particulier et suscite des questions de fond. Comment l'environnement est devenu l'enjeu majeur de nos vies futures ? Chaque semaine, décryptage et analyse des enjeux environnementaux pour la société d'aujourd'hui et celle de demain.
De cause à effet, le mardi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr. Acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain et sociétaire de la comédie française, c'est un boulimique de travail au désir incessant de jouer et faire jouer.
Et là, on a développé avec Christophe un autre culte, culte de Proust, en échangeant des textes, des impressions, en lisant, en se disant maintenant on fait une lecture exhaustive, il faut lire toute la recherche.
Denis Podalydès se raconte à voix nue de lundi à vendredi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Très bon réveil sur France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant de Bruno David. Aujourd'hui cette question, les mouches font-elles de bonnes enquêteurs ?
Une soirée d'été, un jardin, deux entrecôtes qui attendent sur un plat, un barbecue se prépare. Des insectes sont attirés par l'odeur, des guêpes bien sûr, et quelques mouches. Parmi elles de petites noires, des plus grosses striées de gris et une bleue. Une diversité que nous n'apprécions pas, agacés que nous sommes par ces visiteurs indésirables. Autre ambiance. Sur la scène du crime, le commissaire est perplexe devant le cadavre de la victime. Le constat est évident. La mort remonte à quelque temps. La police scientifique arrive, y compris des entomologistes spécialistes des insectes et autres arthropodes. À compter de maintenant, je dois vous avertir que cette chronique n'est pas à mettre entre les oreilles sensibles. Les mouches font partie des escouades d'insectes qui se succèdent dans un ordre quasi militaire lors de la décomposition d'un cadavre. Il est donc très utile de savoir lesquels sont à l'œuvre pour estimer le moment du décès. Le médecin légiste Jean-Pierre Ménien, en 1894, puis l'entomologiste Marcel Leclerc, en 1978, décrivent une chronologie en 7 à 8 phases. Dans l'heure qui suit le décès, 7 espèces de mouches viennent pondre près des orifices naturels du défunt, dont Califora vomitoria, notre mouche bleue, avec ses yeux roux et son abdomen aux reflets métalliques. La seconde escouade arrive 2 à 3 jours plus tard, lorsque l'odeur cadavérique se fait sentir, et implique 6 autres espèces, notamment la mouche grise, Sarcophaga carnaria, au thorax strié de gris et de noir. Une troisième escouade arrive au moment du rancissement des graisses qui dégagent des acides gras volatiles. Elle va occuper le cadavre durant 3 à 6 mois. La quatrième intervient lorsque s'écoulent les liquides sagneux, le pu en langage courant. Je vous passe les détails de la cinquième escouade qui compte 7 autres espèces de mouches avant que d'autres arthropodes, acariens et petits coléoptères, ne s'installent sur un cadavre de plus en plus desséché. Tout cela a beau être calibré, il faut savoir que la vitesse de développement des mouches dépend aussi de la température. Cette difficulté est surmontée si l'on dispose de relevés. Il suffit alors d'additionner les degrés jour après jour pour avoir la date du décès. Par exemple, pour la mouche bleue, un cumul de 472 degrés est nécessaire pour obtenir un adulte à partir de l'œuf. Chaque espèce a sa durée propre, un peu comme autant d'horloges différentes, si bien qu'en recoupant les espèces présentes à différents stades, on resserre l'estimation. Du moins, c'est ce qu'on a cru. Car des études conduites sur des cadavres de cochons ont conclu que certaines espèces de mouches, notamment celles de la cinquième escouade, étaient présentes dès le début. Ça met le désordre dans l'estimation. Il est donc risqué de dater un cadavre de plusieurs mois selon la méthode de Ménien, sans que les escouades soient calibrées en fonction de la pluviométrie, de l'altitude et de la saison. Compliqué. Les mouches ne sont pas des indices fiables.
Vous écoutez Les Petits Matins de France Culture.
โอ้ดอกบัวทองบานในหนองน้ำใสเกิดบัวใบในตมเป็นสนมตรมยาแต่เป็นดอกบูพาปริศนาหนาดูยามเมื่อเสาตรู่หมู่แมงแสวงภัยโอ้ดอกบัวทองเป็นเจ้าของของภัย
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
L'Indochine, la mousson, la moiteur, la beauté du Mékong et les mystères de la nuit. Les photos noir et blanc embuées de l'artiste franco-espagnol Flore sont inspirées par les souvenirs et les mélancolies littéraires de Marguerite Duras. On peut les découvrir dans un beau livre intitulé « L'odeur de la nuit était celle du jasmin ». La photographe Flore est l'invitée du Réveil culturel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver en ce mardi 5 janvier 2021.
Le Réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Flore.
Bonjour Toufik.
Lauréate 2018 du prix de l'Académie des Beaux-Arts, vous avez exposé dernièrement, avant le reconfinement, à l'Institut de France. Donc l'odeur de la nuit était celle du jasmin, c'est-à-dire le travail que vous avez produit à la suite du prix et qui poursuit votre précédente série, Lointain souvenir, c'est-à-dire de restituer l'Indochine de l'enfance de Marguerite Duras, l'Indochine d'il y a 100 ans. Pourquoi être sur les traces de Marguerite Duras quand on est photographe ?
Oh, il me semble que c'était d'abord une quête personnelle et après, plus je la découvre en tant que créatrice, pas seulement en tant qu'écrivain, mais en tant que réalisatrice aussi, c'est quelqu'un qui, dont la fréquentation, si j'ose dire, m'apporte beaucoup. Donc le premier livre était plus spontané, peut-être plus ancré dans une relation intime entre elle et moi qui était née je pense du fait que mes grands-parents ayant vécu à la même période et dans certains endroits comme elle
l'Indochine française donc.
Oui, voilà, l'Indochine française. J'ai hésité parce qu'ils n'ont pas vécu au Cambodge, ils ont seulement vécu au Vietnam. Ma grand-mère paternelle me racontait beaucoup pas mal d'histoires et quand j'étais petite ces histoires me paraissaient très exotiques et elles ont nourri mon imaginaire. J'étais une enfant assez solitaire et c'était une grand-mère qui était exotique pour moi du fait que quand j'allais chez elle assez peu, la maison avait gardé une partie de ses meubles indochinois, ce qui me changeait énormément de ma famille maternelle qui était des réfugiés politiques espagnols. Donc c'était des gens très différents les uns des autres.
Pour parler de votre précédente série de photos, Lointain Souvenir, vous utilisez le mot de livre. Vous avez conçu cette série de photos d'abord pour le livre ou c'était pour exposer, Flore ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la première série, Lointain Souvenir, je l'ai conçue pour le livre. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'était très intéressant pour moi. Et ensuite, on en a fait une exposition à la galerie qui me représentait à ce moment-là.
Les romans de Marguerite Duras, comment peuvent-ils vous influencer, vous, en tant que photographe, et à un siècle de distance? Parce que l'Indochine que vous essayez de restituer par vos photos, Flore, c'est l'Indochine de l'enfance de Marguerite Duras, de vos grands-parents, c'est-à-dire d'il y a 100 ans.
Alors, je crois que c'est quelqu'un qui est facilement inspirante pour un photographe parce que il me semble que quand elle écrit, ça génère beaucoup d'images. En tous les cas, chez moi, ça génère beaucoup d'images. Et après, ce qui m'intéresse, c'est justement la capacité qu'a la photographie, selon comment on l'utilise, de nous faire voyager dans le temps. Il me semble que le monde est devenu très petit. On peut vraiment facilement voyager. Par contre, voyager dans le temps, c'est assez mystérieux. Le pouvoir qu'aurait la photographie de faire des images qui auraient pu être prises dans un temps antérieur, juste par la manière dont on les tire, en quelque sorte. Ça m'intéresse beaucoup.
Donc le flou, le noir et blanc, vous utilisez donc plusieurs méthodes pour restituer cette ambiance de passé.
Oui, c'est un passé présent. Enfin, c'est l'idée du souvenir. Donc c'est après, c'est tout ce qu'on y met dedans. Hein. C'est faire croire. C'est comment je peux arriver peut-être à vous faire croire que, à faire rêver. Je tire tout ce qui sort de l'atelier quasiment moi-même, sauf les héliogravures qui sont montrées actuellement à l'Académie des Beaux-Arts et qui ont été faites par l'atelier Liog et par Fanny Boucher. Mais sinon, la couleur et le noir et blanc sortent tout de l'atelier avec des manières de tirer différentes. Ça peut être de l'argentique, mais il peut y avoir aussi des tirages pigmentaires sur du gampi qui sont marouflés sur or. Il y a plusieurs moyens d'évoquer ces textes, en fait. Il me semble que ce qui est intéressant pour moi, c'est à la fois de faire le voyage pour elle, mais elle est aussi un prétexte, c'est de faire le voyage pour moi sur mes propres traces. C'est ce mélange-là qui est intéressant pour moi. Cette forme, parce que sinon, peut-être que j'y arriverai pas aussi bien qu'on le dit. Je pense que c'est quand on s'attaque à un texte, et puis Marguerite Duras, il y a beaucoup de Durassiens, ça veut dire que on s'attaque à quelque chose qui est sensible pour beaucoup de gens, et je pense que c'est intéressant que si soi-même on a des images intérieures qui sont très fortes. Moi, je prétends pas, d'un côté, je prétends que ce seraient des souvenirs qu'elle aurait pu avoir, mais en vérité, je le fais selon mon cœur.
Avant de parler du traitement de vos photographies, Flore, racontez-nous ce voyage, tous ces jours où vous êtes allé sur place pour chercher des décors, chercher des personnages. Vous êtes rendu où, au juste ?
J'avais déjà travaillé 2 ans avant, plusieurs mois sur place. C'était des lieux que, dans l'ensemble, je connaissais plutôt assez bien. Donc, on parle là du sud de Vietnam et du sud Cambodge. La différence, un peu, c'est qu'elle a écrit... qu'elle n'avait jamais écrit sur Hanoï, bien qu'elle y soit restée, elle a dit ça, je n'ai jamais écrit sur Hanoï. Et c'était très intéressant de pouvoir s'engouffrer dans cette brèche-là. Elle y a vécu quand elle était toute petite, et ça permettait de s'appuyer sur ce tout petit texte. Elle a écrit ça 2 fois, ça devait la tracasser pour aller aussi dans le nord Vietnam. Mais moi, je n'ai la prétention de rien documenter. Ce que j'essaie de faire, c'est retraduire des ambiances littéraires, en quelque sorte.
Mmh. Avec la nature est très très présente. La nature et le vide autour.
Alors, peut-être que c'est gentil de dire ça, peut-être que le vide, ça serait comme ces silences qu'il y a dans les écrits de Duras, ou qu'on les gens reconnaissent qu'il y a beaucoup de silence chez Duras. Peut-être que le vide, ça serait une sorte d'équivalent du silence. Et la nature, elle a beaucoup écrit. Enfin, là, c'est vraiment un travail sur la terre indochinoise comme étant sa terre d'enfance. Elle a écrit beaucoup sur cet amour qu'elle avait pour la terre. Et j'ai essayé que ces paysages rendent ça. Et pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, avant d'aller sur place, moi je fais beaucoup de travail de recherche du texte en fait, et quand je suis sur place, j'ai plein de petites bandes de texte découpées, et j'essaie de trouver les endroits qui font écho en quelque sorte entre ces extraits de phrases que j'ai découpés et mon monde intérieur.
Est-ce qu'il y a un côté reportage, c'est-à-dire est-ce que vous êtes allé sur les traces de l'enfance de Marguerite Duras en disant, en vous posant la question, qu'est-ce qui reste de cette Indochine, qu'est-ce qui reste de ce monde, qu'est-ce qui reste de cet univers-là?
Oui, mais ça ne serait pas ce que j'appellerais du reportage, ça serait plutôt de l'affect. Comme si, enfin, je me suis attachée à la fin à cette relation que j'ai avec elle, et elle est comme familière pour moi, presque comme une famille dans le sens où je l'aime, mais aussi je la déteste par moments. Donc j'y suis allée plutôt comme on va voir, je ne sais pas, une maison d'enfance que vous auriez pu avoir et puis que votre famille a perdue, ou peut-être comme Patti Smith qui va voir la tombe de Rimbaud. C'est plus pour des raisons affectives, parce qu'après, c'est rare que la chose qu'on cherche soit au vrai endroit. Ça arrive, mais je le fais plutôt pour le plaisir de voir. Mais on peut difficilement rendre, je pense, quelque chose qui a existé il y a 100 ans. Quand on le retrouve 100 ans plus tard, c'est compliqué. Ho Chi Minh n'est plus le Saïgon d'autrefois. On peut tourner les choses dans tous les sens. C'est très compliqué.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de chercher, de rechercher des traces du passé?
Oui, c'est ça. Et après, on devient plus futé. On sait qu'on les trouve moins dans les grandes villes. On sait que si elle parle d'une borne, c'est pas la peine d'aller chercher la vraie borne parce qu'elle va être toute neuve. C'est, à mon sens, plus intéressant d'en trouver une par hasard qui a vieilli dans un coin, qui a été oubliée. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle fera une bonne image. En tous les cas, c'est pas... Ce n'est pas non plus un documentaire sur la vie de Marguerite Duras. C'est vraiment une fiction qui répondrait à une autre fiction.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
La mousson, dessous le Bengale.
Cette poussière là-bas,
Calcutta central.
Cette rumeur,
le Gange.
Où est-on?
L'ambassade de France aux Indes.
Il y a comme une odeur de fleurs.
La lèpre.
Cette couleur verte, elle grandit.
L'océan Indien.
Ces jonques.
Le riz. Elles vont vers le Coromandel.
Sur les talus, ces taches sombres.
Les gens. La densité la plus élevée du monde.
Ces miroirs noirs.
La rizière indienne.
Ces lueurs là-bas. On brûle les morts de la faim.
Oui. Le jour vient.
Cet amour.
L'amour.
On danse à l'autre bout du hall.
Les touristes de Ceylan.
Qu'elle est blanche. Qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta.
Pendant 6 mois ne sortent qu'avec le soir. Fuit le soleil.
Morte là-bas.
Aux îles. Trouvée morte. Une nuit.
Ce mot.
Désir.
Celle qui vient. Dans cette odeur de fleurs.
Une mendiante.
Folle. C'est ça.
Souvenir, souvenir, lointain souvenir des odeurs, des paysages, des sensations. C'était dans l'œuvre de Marguerite Duras et vous faites donc une interprétation comme si vous vouliez revisiter, sans vous perdre vous-même, Flore, dans ce monde de Marguerite Duras, dans le monde de la jeunesse de Marguerite Duras. L'odeur de la nuit était celle du jasmin. C'est le titre de ce beau livre qui réunit vos photos autour de ce voyage, autour de cette quête. Mais est-ce que je peux parler de quête, Flore ?
Oui, je pense. Parce que, en fait... J'ai voulu reconstituer non seulement ce qui pourrait être ses souvenirs, mais c'était important pour moi parce que cette famille paternelle dont j'ai parlé, c'est une partie de ma famille que j'ai perdue très soudainement, qui est dans des conditions très difficiles. Et pendant longtemps, j'ai laissé cette perte sous le tapis, si je peux dire, et elle a continué à me hanter, en quelque sorte, peut-être comme elle raconte que finalement la perte de ce pays dans lequel elle n'est jamais revenue, ça a fini par la hanter. Et je pense qu'il y a dans la photographie capacité à résilience, certaines fois, et à réinvention. Et dans les photos qu'on peut voir à l'Académie actuellement, il y a des images qui sont à la fois ce que je crois qu'elle a vécu, mais aussi des souvenirs précis que j'ai de cette maison dans laquelle j'ai grandi et que j'ai perdue.
Alors, il y a des photos de maison, il y a des photos de maison, de nature, du Mékong, de la plantation, des végétations, des arbres. Et puis, il y a aussi quelques personnages. Ces personnages, vous les avez rencontrés, vous les avez fait poser, Flore, pour ce livre, pour cette expo ?
Disons que je vais m'approcher doucement et puis je vais regarder s'il y a une complicité qui est possible. Je pense à la petite fille, peut-être que vous évoquez, qui regarde le spectateur avec cette tête un peu boudeuse, un petit peu altière aussi. Voilà, je m'approche de très loin et puis je regarde s'il y a une complicité, c'est ça qui m'intéresse. Et aussi, si elle rentre dans ce monde, je trouve que c'est difficile de faire rentrer des personnages, j'allais dire des gens, mais des personnages, donc ce qui est au fond une fiction. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Annaud quand je préparais le travail.
Le réalisateur, donc le cinéaste, oui.
Oui, pardon, excusez-moi, merci. Et il me parlait gentiment des lieux dans lesquels des lieux et des moyens qu'il avait pour tourner. Et on voyait bien qu'on jouait pas à la même chose, parce que lui, s'il veut un personnage, il l'amène, il le choisit, il l'habille et il l'éclaire. Tandis que moi, je vais beaucoup attendre et beaucoup chercher, comme vous disiez tout à l'heure, c'est beaucoup, beaucoup de quêtes, en fait. Même dans ce sens-là, une quête pauvre du quotidien pour que des personnages arrivent qui soient en adéquation avec l'idée que j'ai de l'histoire à raconter.
Flore, vos photos donnent l'impression parfois d'être des tableaux, parce que vous les avez travaillées, vous les avez réalisées à la chambre noire, vous les avez teintées au thé, parfois cirées, vous avez joué aussi sur le flou, sur quelque chose qui ressemble à de la vapeur. Donc ce sont des photos très travaillées, comme on dit, pour ne pas utiliser le terme de mise en scène.
Oui, très. Mais c'est parce que, en fait, j'adore ça. La plupart des images sont en argentique et je les tire moi-même et j'adore ça. J'adore l'idée peut-être d'une forme de tirage expressionniste qui, si j'arrive à donner la bonne densité, la bonne granulation, la bonne teinte, parviendrai jusqu'à vous pour générer chez vous des émotions que j'aurais pensées en amont. C'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. C'est pas tellement la prise de vue. Moi, je fais partie de cette famille à la Eugene Smith, on dirait, qui pense que c'est 10%, la photographie, c'est 10% de prise de vue et 90% de tirage. Ce qui me laisse grande latitude de réexprimer les choses après.
Une citation de Marguerite Duras pour donner un titre générique à votre travail, Flore, l'odeur de la nuit était celle du jasmin. Pourquoi ce choix, d'ailleurs, de ce titre ?
Il me semble que c'était l'odeur, je crois. Et c'était cette idée de nuit et d'odeur. C'était ce que moi, je ne pourrais pas donner avec la photographie. Parce que je peux éveiller des sens, je pense, mais pas celui de l'odeur. Alors si on peut l'évoquer en amont, il me semble que c'est bien pour plonger le spectateur dans, dans une ambiance au début.
Flore, je vous propose d'écouter Marguerite Duras dans cette célèbre interview accordée à Bernard Pivot quand elle venait d'obtenir le Goncourt pour L'Amant. Elle parle de son travail d'écrivain. Qu'est-ce qu'être écrivain ?
C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça ? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie ? Et duquel on ne peut absolument pas s'extraire. J'ai beaucoup parlé de ça. Et puis, je ne sais pas ce que c'est, écrire, je ne sais pas.
C'est toujours pas.
Non, mais j'ai beaucoup parlé, croyant savoir. Puis on me harcelait, alors j'ai donné des renseignements. J'ai donné des renseignements sur l'écrit. Mais savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas.
Et vous, Flore, pourquoi vous avez doublé votre vie d'une autre vision du réel avec la photo? Pourquoi vous prenez des photos?
Parce que sinon la vie telle qu'elle est, elle serait pas supportable pour moi en fait. Le monde dans lequel on vit, il est trop sauvage en fait, je trouve. Les gens sont trop sauvages les uns avec les autres et je pourrais pas vivre dans un monde comme ça. Tandis que là, ça permet d'être dans un espace-temps qui est meilleur pour moi, en fait. Mmh. Plus supportable. Je pense réellement que si on enseignait plus... Enfin, j'enseigne la photographie dans des cas de masterclass. C'est déjà différent, mais... Si on enseignait plus l'art et l'expression à les enfants quand ils sont plus petits, si on leur donnait cette idée-là, que ça compte, que c'est une valeur qui compte, il y aurait moins de gens malheureux. Mais ce n'est que mon avis. Hein. Mais je crois ça quand même.
Mais vos photos renvoient au passé, aux souvenirs, à des nostalgies. Est-ce que le présent, vous pouvez aussi l'affronter avec votre regard de photographe, Flore, pour terminer cet entretien ?
Mais je pense que c'est ça que je fais, en fait. J'affronte le présent. Tous les jours, c'est ça que je fais. Je suis très politisée, très engagée. Je travaille avec des fondations comme Photo for Food. Enfin, je suis consciente du monde dans lequel on vit, et c'est pour ça que j'essaie d'utiliser mon médium de la manière la plus libre possible. C'est pas parce que mes images sont mélancoliques que ma position n'est pas face au monde. Peut-être que le fait qu'elle soit mélancolique témoigne justement du fait que j'ai les yeux ouverts sur le monde. Et la mélancolie n'étant pas la nostalgie, somme toute.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
On peut voir les photos de Flore en grand format à l'Académie des Beaux-Arts jusqu'au 31 janvier, c'est ouvert. Sinon, il y a ce livre, ce beau livre édité par Clémentine de la Ferronnière. L'odeur de la nuit était celle du jasmin, c'est le titre de cet ouvrage qui vient de recevoir le prix Nadar. Merci beaucoup, Flore, d'avoir été notre invitée ce matin.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son, Souad Boukorsa.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Je vous donne rendez-vous mardi à 19h en compagnie de Daniel Buren.
Sur France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Daniel Buren s'exprime depuis plus de 50 ans au moyen de bandes de couleurs, mais il a en fait sans cesse renouvelé sa pratique, car c'est l'in situ qui est pour lui le plus important. Des colonnes du Palais Royal à la Galerie Kamel Menour, nous interrogerons la pratique d'un des plus grands artistes de notre temps.
Affaires culturelles, ce mardi à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et si l'économie ouvrait la voie à un avenir meilleur ?
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
Cette semaine, on se met en quête d'une économie plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Comment orienter la croissance vers la santé et le bien-être ? La finance va-t-elle accélérer sa conversion à l'écologie ? Et comment pouvons-nous, individuellement et au sein de l'entreprise, participer à la construction de ce monde d'après ? Autant de questions dont on ne peut plus aujourd'hui faire l'économie.
Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture, il est 6h30, tout de suite le journal par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Retour ce matin sur les restrictions sévères que s'est résolu à mettre en place le Royaume-Uni. Face à la montée inquiétante des contaminations au Covid-19, les écoles vont fermer à nouveau. Ce sera un reportage de Marie-Pierre Véraud à Londres. En France, 35 personnes tirées au sort pour évaluer la stratégie vaccinale. Est-ce une bonne idée ? L'analyse à venir du spécialiste de la participation, Jean-Michel Fourniaud. Et puis nous irons à Annemasse où l'élection du maire sortant a été invalidée hier par le tribunal administratif. Motif, une trop faible participation. En attendant les effets de la vaccination, le Royaume-Uni se débat toujours avec une contagion galopante de la nouvelle variante du Covid-19. Et hier, Boris Johnson a décidé de reconfiner le pays jusqu'à la mi-février. Avec plus de 75 000 morts, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus endeuillés par cette pandémie. Et la tendance s'est aggravée ces dernières semaines. Près de 60 000 nouveaux cas ont été comptabilisés hier, des taux qui battent allègrement les records du printemps dernier. Par conséquent, les écoles, qui pour certaines venaient de rouvrir, referment leurs portes ce matin. Les parents, eux, tentent de se débrouiller. Le reportage de Marie-Pierre Véraud avec les moyens techniques de Fabien Gosset à Londres.
Emmitouflés dans leur doudoune jaune, Samuel et Noah pédalent dans Hyde Park. Âgés de 6 et 9 ans, ils devraient être en classe. Mais après plusieurs hésitations, Boris Johnson a d'abord annoncé que les écoles de Londres resteraient fermées 2 semaines de plus. Confinement qu'il vient de prolonger hier soir jusqu'à la mi-février, au moins la faute aux variants du virus. Samuel n'en peut plus. Il voudrait bien être avec ses copains. Sa mère, Mimou, oscille entre exaspération et fatalisme.
Je prends juste chaque jour comme il vient. On l'a déjà fait, on doit le refaire. J'ai 4 enfants, donc je dois imprimer des emplois du temps pour tout le monde. Chacun est sur iPad ou Zoom. C'est dur, vraiment dur.
Au nord de Londres, Rachel, elle aussi, s'arrache les cheveux. Cette avocate est maman de 2 petits-enfants et ce qu'elle dénonce surtout, c'est la stratégie illisible du gouvernement.
C'est très chaotique. C'était tout à fait évident qu'il allait falloir fermer les écoles, surtout parce qu'on a tout ouvert à Noël. Et là aussi, on a changé d'avis au dernier moment.
Et ce n'est sans doute pas fini. Personne ici ne croit vraiment Boris Johnson quand il donne la mi-février comme nouvelle date butoir.
On l'a dit, la campagne de vaccination bat pourtant son plein au Royaume-Uni qui a autorisé hier l'administration d'un deuxième sérum, celui d'AstraZeneca Oxford, moins coûteux et plus facile à stocker. L'Argentine, l'Inde et le Mexique l'ont autorisé également. L'Allemagne, elle, va sans doute prolonger au-delà du 10 janvier les limitations des déplacements, décision qui sera prise aujourd'hui. Et puis en France, l'exécutif est toujours sous le feu des critiques pour les lenteurs de la campagne de vaccination, une campagne qui va s'accélérer à promis hier Olivier Véran, l'exécutif qui a prévu de faire évaluer cette stratégie vaccinale par un collectif de 35 citoyens tirés au sort. Une décision là encore critiquée par les deux bords de l'échiquier politique à droite et à gauche qui estiment qu'il s'agit là d'une mesure gadget. Des critiques que comprend le sociologue Jean-Michel Fourniaud, président du groupement d'intérêt scientifique démocratie et participation. Il était hier l'invité du journal de 22h de Stanislas Vazak.
On peut comprendre ces critiques. Personnellement, je me garderai de juger avant d'avoir vu ce que produit ce comité citoyen. Mais effectivement, la première remarque que l'on peut faire sur ce dispositif, c'est que c'est pas vraiment un dispositif de démocratie participative, même s'il a été créé en faisant référence à la démocratie participative. C'est simplement un dispositif de consultation de citoyens, plutôt un focus group que dispositif que les grandes marques, par exemple, ont beaucoup répandu depuis une vingtaine d'années pour recueillir l'avis de consommateurs. Ici, là, on prend ça un peu l'avis des citoyens comme usagers qui vont devoir répondre à la sollicitation de vaccination. Donc, c'est une consultation. Il n'y a aucun rapport avec même ce qu'avait pu demander le conseil scientifique au printemps dernier, qui était d'associer les citoyens à la stratégie de lutte contre le Covid.
Jean-Michel Fourniaud, le niveau français des contaminations reste préoccupant, avec environ 15 000 cas comptabilisés par jour, ce qui n'augure pas de réouverture des bars et des restaurants au 20 janvier, comme prévu en décembre. Et puis, malgré le confinement, le couvre-feu et donc la fermeture des endroits festifs, certains persistent à organiser des fêtes qui du coup deviennent clandestines. Hier, on apprenait la mise en examen d'un homme de 22 ans, soupçonné d'avoir organisé la rave party près de Rennes, pour la soirée du 31 décembre, une mise en examen pour organisation illicite et mise en danger de la vie d'autrui. Et cet après-midi, trois personnes sont convoquées devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir organisé plusieurs fêtes en région parisienne durant le confinement. Florence Turbe.
Milliers de personnes rassemblées fin septembre dans un hangar désaffecté de la Courneuve, mais également des rendez-vous dans le Val d'Oise et à Paris. Les enquêteurs ont dénombré plus d'une vingtaine de soirées montées en quelques mois par les mêmes organisateurs qui vont devoir s'expliquer non seulement sur leur caractère illicite, mais aussi sur les bénéfices qu'ils ont retirés, même s'ils s'en défendent. Ils devront répondre en premier lieu de mise en danger de la vie d'autrui, un délit passible d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, délit qui va ouvrir la voie à plusieurs poursuites judiciaires après les fêtes clandestines recensées au cours des derniers mois. 300 à 400 personnes dans un pavillon de Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne à la mi-novembre, un demi-millier à Marseille le 14 décembre ou encore ces 50 convives réunis à Tremblay en France par un employé municipal de la ville dans une maison de quartier dont il avait les clés. L'homme voulait y célébrer son mariage. Il a été suspendu de ses fonctions. Le dernier rassemblement en date reste le plus important de tous. Les 2500 jeunes venus à Lieuron pour fêter le nouvel an dans des locaux désaffectés, avec plus de 1200 verbalisations à la clé et surtout l'ouverture d'une information judiciaire qui va donner lieu à une enquête plus large pour identifier et interpeller l'ensemble des organisateurs.
C'est une affaire d'inceste et de pédophilie qui défraie la chronique parce qu'elle éclabousse une figure politique. Le politologue Olivier Duhamel a mis fin à toutes ses fonctions hier, accusé par sa belle-fille, la juriste Camille Kouchner, d'avoir agressé sexuellement son beau-fils pendant des années. Le Monde et l'Obs dévoilaient hier des extraits de l'ouvrage de Camille Kouchner, La Familia Grande, dans lequel elle accuse son beau-père. « J'avais 14 ans et j'ai laissé faire. J'avais 14 ans, je savais et je n'ai rien dit », écrit-elle. Elle et son frère Julien sont les enfants de l'ex-ministre Bernard Kouchner et de la professeure de droit Evelyne Pizier qui avait ensuite épousé Olivier Duhamel. Dans son livre, elle assure que beaucoup de gens de leur entourage étaient au courant. L'élection du maire de la ville d'Annemasse en Haute-Savoie, annulée hier par le tribunal administratif de Grenoble en raison d'une participation trop faible. La cour a estimé qu'une abstention trop forte avait altéré la victoire au premier tour du maire sortant, Christian Dupecet, c'est son nom, maire d'hiver droite donc de cette commune de 36 000 habitants et réélu malgré une abstention de 72%, un taux bien supérieur à la moyenne nationale. Sophie Delpont.
Pour le maire d'Annemasse, le d'hiver droite Christian Dupecet, c'est un coup dur.
C'est une surprise et accompagnée d'incompréhension, puisque le tribunal s'appuie uniquement sur la faible participation.
Il met en garde face à une possible jurisprudence.
Je ne voudrais pas être la cause d'annulation de l'ensemble des élections du 15 mars dernier, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a un sort particulier fait par le tribunal administratif de Grenoble aux élections d'Annemasse, qui, encore une fois, par ailleurs, ne sont entachés d'aucune faute, ce que dit très clairement le tribunal.
Il annonce faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. Le 15 mars dernier, le maire sortant avait obtenu 50,02% des suffrages, avec une seule voix lui permettant d'obtenir la majorité absolue. Privé de second tour, à une voix près donc, Maxime Gaconnet, tête de liste d'hiver droite de Génération Annemasse, portait ce recours. Il salue cette décision.
Elle est très forte parce que je sais que c'est un retentissement national. Les candidats qui avaient fait des recours nous regardent avec beaucoup d'attention. Enfin, c'est une grande victoire pour la démocratie dans un premier temps. Il faut que le Conseil d'État valide cette décision, ce qui ne va pas être simple pour eux. Depuis notre fenêtre de la Haute-Savoie, c'est une victoire pour la liste que je compose, oui, parce qu'on en avait l'impression quand même d'avoir fait beaucoup de travail, un peu mis à mal par cette pandémie qui d'ailleurs a touché le monde entier, mais les élections françaises en mars 2020.
Le Conseil d'État devra statuer dans les 6 mois.
Et en juillet dernier, une autre commune, Malleville, 4300 habitants en Loire-Atlantique, avait elle aussi vu son élection annulée pour les mêmes raisons. On termine avec un mot du temps de ce mardi. Humide, froid et couvert, quelques flocons sur la Manche ce matin. Des averses sur le sud-ouest et en Corse. Une tendance qui va se maintenir cet après-midi, calme et froid. Donc attention au brouillard givrant ce soir. Les températures de faibles gelées sont attendues sur une grande partie du pays, avec moins 6 à moins 3 degrés sur l'Auvergne et les Alpes, moins 3 à 0 degrés en général, jusqu'à 4 degrés proche du littoral ce matin. Les maximales ne dépasseront pas 0 à 2 degrés dans le nord-est, 2 à 5 degrés ailleurs. 6h et pas tout à fait 40 minutes sur France Culture. C'est le Monde des Idées avec vous, Jacques Munier. Bonjour.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Alors, on le disait hier dans nos journaux, Donald Trump a tenté une dernière manœuvre contre sa défaite au présidentiel en exigeant du responsable électoral de l'État de Géorgie qu'il inverse le résultat.
Oui, je cite « Les manœuvres et l'obstination de Trump à nier sa défaite déchirent les États-Unis », c'est Le Monde qui titre ainsi. L'enregistrement du coup de fil a été obtenu par le Washington Post, on le sait, qu'il a publié intégralement. L'échange est du niveau de la conversation qui avait valu à M. Trump la procédure en destitution de l'hiver 2019, observe Corinne Lenne, la correspondante du Monde à San Francisco. À l'époque, le président demandait une faveur au président ukrainien Volodymyr Zelensky, des informations dommageables à son adversaire Joe Biden en contrepartie du déblocage de l'aide militaire à l'Ukraine. Toute la séquence depuis la présidentielle culmine dans cette ultime tentative qui alimente un climat que le site Politico qualifie de guerre civile. Dans le camp républicain, des légitimistes comme le sénateur Mitt Romney ou l'ancien candidat à la vice-présidence Paul Ryan ont mis en garde contre ces atteintes à la confiance que les Américains portent dans leurs institutions démocratiques. Mais à la veille de la certification des votes du collège électoral par le Congrès, demain, mercredi, au moins 12 sénateurs républicains et plus de 100 représentants républicains ont déclaré qu'ils allaient contester les résultats, estime le site d'information. Autre élément de contexte, le 45e président redevient dans moins de 3 semaines un simple citoyen passible de divers ennuis judiciaires. Et aujourd'hui, la double élection sénatoriale en Géorgie, qui va déterminer le contrôle du pouvoir à Washington, avec une majorité au Sénat jusqu'alors composée de 50 élus républicains et 48 démocrates. Symboliquement, pour le président déchu, même si sa manœuvre ne changerait pas à l'issue de la présidentielle, elle aurait pu réparer l'affront suprême à sa postérité égotique, la perte d'un État sudiste qu'il considérait comme un fief et n'avait pas voté pour un présidentiable démocrate depuis Bill Clinton il y a 28 ans, souligne Philippe Coste sur le site de Libération. Je cite « Les élections du 5 janvier en Géorgie, si elles se soldent par la victoire de 2 démocrates, en diront aussi long sur le pouvoir du président sortant, son pouvoir de destruction ». La campagne est donc repartie de plus belle dans ce swing state traditionnellement républicain que Joe Biden a remporté d'une courte tête en novembre, observe Alexis Buisson pour Mediapart. L'enjeu est de taille. Le parti de Joe Biden, qui contrôle déjà la Chambre des représentants, doit impérativement remporter les 2 sièges de Géorgie pour éviter au président élu une cohabitation synonyme de blocage. En cas d'égalité des votes sur un texte de loi, l'avantage reviendrait aux démocrates car la Constitution donne au vice-président, en l'occurrence Kamala Harris, la possibilité de voter pour départager les 2 camps. Face à une forte mobilisation des militants démocrates, notamment à l'intention des communautés black, hispano ou asiatiques, les soutiens de Trump pourraient s'abstenir du fait des accusations portées par leur champion contre le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, pour n'avoir pas fait davantage contre les irrégularités qui ont, selon eux, entaché les opérations de vote, bien qu'il y ait eu 3 recomptages des voix en Géorgie. On entend des électeurs républicains dire « comme le scrutin était truqué, pourquoi me donnerais-je la peine d'aller voter au sénatorial ?» C'est l'arroseur arrosé. Dans l'Express, Emmanuel Aumônier tire la leçon du livre de Christian Salmon sur la tyrannie des bouffons, publiée au Lien qui libère, l'effet de bascule qui fait sombrer la politique dans le carnaval. Qu'ils soient populistes, nationalistes, souverainistes ou illibéraux, le substrat commun aux Trump, Salvini ou Johnson est leur incarnation grotesque du pouvoir, un pouvoir qui ne s'appuie sur aucun des trois types de légitimité définis par Max Weber, la tradition, la légalité ou le charisme. Ressembler au commun, au peuple, jusque dans ses aspects les plus vulgaires, est le seul programme du bouffon. Se distinguer par son caractère irrationnel et renverser la table à tout moment sur Twitter. Roger Stone, l'ancien conseiller de Trump, Reagan et Bush, avait cette formule « La politique est un divertissement, la seule chose pire que d'avoir tort, c'est d'être ennuyeux. » Derrière ces marionnettes assoiffées de pouvoir, des conseillers en communication, la chambre d'écho des réseaux sociaux, la nébuleuse des lobbies carbonés, au stade terminal de l'homo politicus. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, la demande d'extradition américaine, et vous posez cette question, qui sont les soutiens de Julian Assange?
Oui, Julian Assange ne sera pas extradé vers les États-Unis, en tout cas pas pour l'instant, puisque la juge britannique qui en a décidé a fondé son jugement sur des éléments, disons conjoncturels, la santé mentale du fondateur de Wikileaks, incompatible selon elle avec les conditions de détention des prisons de haute sécurité américaines. Dans la foulée, donc hier, le Mexique s'est proposé d'offrir l'asile politique à Julian Assange. Son ministre des Affaires étrangères doit se rapprocher du gouvernement britannique pour lui soumettre cette résolution. Mais à part le Mexique, dirigé par ailleurs depuis quelques mois par un président de gauche, mais qui jusque-là a plutôt cherché à ménager ses relations avec les États-Unis, à part le Mexique donc, rares sont les voix officielles à s'être risquées à se prononcer sur ce jugement. Bonjour Amel Guiton. Est-ce que vous êtes avec nous, Amel Guiton, par liaison téléphonique? Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef adjointe du service police-justice-enquête de Libération. Vous êtes spécialiste des enjeux numériques et vous avez suivi hier la délibération d'une demi-heure de la juge Vanessa Baritzer. À quel moment est-ce que vous avez compris qu'il ne serait pas extradé? Parce que ça n'avait rien d'évident.
Non, pas en tout cas pas immédiatement, c'est très clair. Hein. D'ailleurs, les soutiens et les avocats d'Assange n'étaient pas particulièrement optimistes. Et honnêtement, pendant les 35 premières minutes de lecture du jugement, hein, ça a duré trois quarts d'heure, je crois, au total, la juge Baritzer a, on va dire, pilonné un par un à peu près tous les arguments que la défense avait fait valoir pendant les audiences, que ce soit au mois de mai ou au mois de septembre. Et c'est vraiment dans les 10 dernières minutes, c'est-à-dire quand elle aborde la question de l'état de santé d'Assange, que ça a basculé, parce qu'à ce moment-là, donc elle explique qu'elle a validé les arguments des experts médicaux, que si Assange est extradé, il sera effectivement dans une prison de très haute sécurité, qu'il sera soumis à un isolement quasi total et qu'effectivement, compte tenu de son état psychique, il y a un très fort risque de suicide. Et c'est vraiment cet argument-là, et uniquement cet argument-là, qui l'a emporté dans la décision de refuser l'extradition. Donc c'est vrai que c'est un jugement qui est assez particulier, parce que les avocats évidemment d'Assange en sont très satisfaits. Je pense que pour les ONG de défense de la liberté de la presse, on va dire que c'est plus balancé. Ils sont évidemment soulagés de cette décision, mais disons plus circonspects en tout cas sur les arguments et sur les attendus du jugement.
Parce qu'en effet, la juge ne s'est absolument pas prononcée, n'a pas estimé que la liberté de la presse était menacée par une éventuelle extradition de Julian Assange. Alors, quelles réactions officielles a occasionné cette décision de la justice britannique? D'abord, de la part du département de la justice américain, puisque c'est lui qui poursuit Julian Assange. Qu'est-ce qu'il retient, lui? Est-ce qu'il retient le fait que le fondateur de Wikileaks n'est pas extradé, donc que c'est un échec pour le gouvernement américain, ou le fait que la juge britannique n'a pas retenu les principaux arguments de la défense d'Assange?
Alors, le département américain de la justice, il retient les deux. Il retient quand même principalement le fait que l'extradition est refusée. Hein. Le communiqué est très clair. Il se dit extrêmement déçu de cette décision et il va faire appel. Donc, c'est pour ça que l'histoire n'est pas finie. On le savait d'ailleurs, quel que soit, enfin, quel qu'ait été la décision que la partie perdante ferait appel. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de, surprise. Mais il retient effectivement que les arguments avancés par les avocats des autorités américaines ont été entendus par la juge. Hein. Ça aussi, c'est effectivement très clair dans le communiqué. Et donc, ils ont bien eux perçu effectivement cette dimension-là de la décision du tribunal britannique.
Et ne relève pas par ailleurs que le fait que la justice britannique considère que l'état des prisons américaines ne pourra qu'aggraver l'état de santé de Julian Assange, c'est quand même aussi un camouflet pour la justice américaine.
Oui, de fait, c'est un camouflet pour eux. D'une certaine manière, peut-être aussi que ça, de l'autre côté, ça lève une hypothèque, au sens où, effectivement, comme vous le disiez, les États ne se sont jamais, on va dire, bousculés au portillon pour soutenir Assange. Il faut peut-être voir d'ailleurs dans la réaction mexicaine une façon d'y réagir assez immédiatement. Est-ce que d'autres États pourraient emboîter le pas au Mexique? Ça, en revanche, c'est une autre histoire, c'est plus complexe et je pense que seul l'avenir le dira.
Voilà, le Mexique qui se propose donc d'offrir l'asile politique à Julian Assange. Son président Manuel López Obrador paraît moins soucieux de s'attacher les grâces américaines que l'Équateur, qui lui a lâché Julian Assange dès le président Lénine Moreno élu. Hein, c'est en avril 2019, suite à son élection, que Julian Assange a été arrêté à l'ambassade d'Équateur. Mais à l'époque, Assange avait reçu des soutiens dans le monde entier pour rappeler le travail colossal réalisé par sa plateforme en matière de dénonciation de scandales de corruption, d'espionnage et de violation des droits de l'homme. Où sont-ils tous ceux qui se sont prononcés à l'époque ?
Alors d'abord, c'est quand même pas... Il faut avoir en tête qu'Assange, c'est pas quelqu'un de forcément facile à soutenir, en tout cas pour les États. Du côté de la société civile, ça a toujours été plus complexe que ça n'en a l'air. C'est-à-dire que ça a toujours été une personnalité assez clivante, justement parce qu'il a une position très radicale, hein, sur la question de la transparence. Il y avait quand même un soutien effectivement assez fort en 2010. Les choses ont évolué par la suite, on va dire au fil des divers épisodes de cette histoire qui est assez incroyable, les accusations de violences sexuelles en Suède, le fait qu'il se soit retrouvé effectivement dans une opposition très très frontale avec le gouvernement américain. Mais en tout état de cause, à partir du moment où il s'est retrouvé dans cette situation effectivement d'opposition, les États ne se sont jamais bousculés effectivement pour le soutenir. J'ai souvenir qu'en 2010, le président brésilien notamment avait mis en cause le bien fondé de son arrestation justement sur le territoire britannique, le président russe également. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu un fort soutien des États en dehors de l'Équateur au moment où effectivement en 2010 il franchit la porte de l'ambassade dans laquelle il va rester cloîtré pendant 7 ans. Le fait est que l'Équateur effectivement l'a soutenu très longtemps, même si je pense qu'en coulisses ça n'était pas forcément toujours aussi simple. Mais effectivement avec l'élection de Lénine Moreno, ça bascule et ça débouche effectivement sur cette arrestation tout à fait spectaculaire d'avril 2019 qui se passe à l'intérieur même de l'ambassade, ce qui était effectivement le scénario catastrophe que craignaient tous ses soutiens.
Arrestation que le Kremlin, vous l'avez dit, Amal Guiton, avait dénoncé comme une atteinte aux droits des lanceurs d'alerte, ce qui certes ne manquait pas de sel. Mais c'est vrai que les relations supposées de Julian Assange avec la Russie ont mis à mal les soutiens qu'il avait reçus de la part de plusieurs, notamment diplomatie occidentale. Mais est-ce que ces liens ont été avérés depuis ? Est-ce qu'il y a des éléments tangibles
pour... Jamais vraiment. Ben jamais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a plus une relation, j'allais dire, utilitaire. D'ailleurs, probablement utilitaire de façon un peu réciproque. On se souvient, par exemple, qu'en 2012, effectivement, quand Assange est en liberté conditionnelle dans un manoir du Suffolk, en attendant, effectivement, la suite de la procédure d'extradition demandée par la Suède. Il fait une émission de télévision qui s'appelle The World Tomorrow et qui est effectivement diffusée sur Russia Today. On se souvient qu'il y a un épisode qui effectivement a donné beaucoup à penser aux conservateurs américains. C'est le moment où Snowden se retrouve coincé sur le territoire russe parce que son passeport lui a été retiré. Il est accompagné à l'époque par la numéro 2 de WikiLeaks et il va effectivement trouver asile sur place.
Allez-y, je vous en prie, mais c'était juste pour rappeler qu'Edward Snowden était aussi considéré comme un lanceur d'alerte, qui lui se définit comme patriote américain et à qui Moscou a offert l'exil. Voilà, ce qui est tout à fait paradoxal. Mais je vous en prie, continuez. Amel Guiton.
Bah, il y a aussi, pour le coup, un rapport extrêmement utilitaire du Kremlin vis-à-vis de Snowden. Hein. D'une certaine manière, c'est aussi la personnalité qu'ils mettent en avant pour dire « Regardez comme nous sommes des protecteurs de la démocratie », ce qui est effectivement extrêmement paradoxal, mais ça, c'est le jeu de la communication géopolitique. Mais alors, il y a donc l'épisode de 2016. Il y a eu une enquête du procureur spécial Robert Mueller qui n'a jamais tiré la conclusion qu'Assange avait connaissance de la provenance supposée des documents, effectivement les mails du Comité national démocrate ou les mails de John Podesta qui ont été publiés. Il n'a jamais conclu à une preuve de collusion entre Assange et les services secrets russes. Moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement il y a aussi un rapport utilitaire de ce côté-là, au sens où quand les documents lui ont très probablement été proposés sous un faux nez, d'une certaine manière, pour lui, la question de la provenance de ces mails ne se posait pas. Ça rentrait dans son propre agenda politique, qui est un agenda de transparence totale et effectivement en particulier vis-à-vis du camp démocrate et vis-à-vis d'Hillary Clinton, et que la fin justifie les moyens, je crois.
C'est vrai que par ailleurs, on a reproché à WikiLeaks d'avoir dit au début qu'il allait se concentrer sur les régimes autoritaires comme la Russie et que finalement très peu de documents publiés ont mis en difficulté Moscou. Par ailleurs, on verra si l'élection de Joe Biden change quelque chose. La position des démocrates américains est très ambiguë par rapport à Julian Assange, qui en effet avait dévoilé de nombreux mails de la campagne d'Hillary Clinton. Mais par ailleurs, quand Obama était au pouvoir, il n'avait pas déclenché l'espionnage act. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Amel Guiton, d'avoir été avec nous ce matin, et je vous souhaite une bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, partenaire de Charlie Chaplin, le génie de la liberté. Acteur, auteur, réalisateur, chorégraphe, Charlie Chaplin est l'artiste le plus populaire et le plus complet au monde. Composé entièrement d'images d'archives et de scènes cultes des chefs-d'œuvre de Charlot, François Aimé et Yves Jolland proposent un portrait de l'artiste humaniste avec la voix de Mathieu Amalric. Charlie Chaplin, le génie de la liberté, demain à 20h50 sur France 3. Un partenariat France Culture, à retrouver dans Plan Large d'Antoine Guillot.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, un homme avait prévu le déroulement de cette campagne de vaccination en France.
Ou de cette campagne de non-vaccination, ou des lenteurs de cette campagne, bref, vous choisirez. Cet homme, c'est le sociologue allemand Max Weber. Weber ne s'est jamais intéressé à la seringue, mais il a réfléchi sa vie durant à la raison et aux manières dont la raison moderne pouvait engendrer dilemmes, apories et autres impasses pour nos gouvernants, mais aussi pour les gouvernés. Or, tout dans cette histoire de vaccin m'apparaît comme une illustration des pathologies de la raison moderne. En premier lieu, la production du vaccin, prodige de rationalité scientifique qui se heurte aux limites indépassables, malgré les efforts, les performances de la rationalité industrielle. Car depuis les débuts de cette crise, depuis l'épisode des masques jusqu'à celui des tests, on découvre l'épouvantable complexité des chaînes logistiques destinées dans le but rationnel d'accroître le profit. Elles se fracassent sur le constat rationnel de leur incapacité à répondre à nos besoins en temps de crise. Et c'est ainsi que la France a manqué d'écouvillons, vous savez, les cotons-tiges. Pour faire les tests, aujourd'hui, elle pourrait bien manquer de vaccins. Et c'est ainsi que la bureaucratie qui était chez Weber, le siège de la rationalité moderne, est devenue synonyme de blocage. Bureaucratie sanitaire comprenait catastrophe sanitaire, alors que la bureaucratie, comme instance moderne, est ce qui assure ou peut assurer la continuité du fonctionnement de nos sociétés au-delà. Et malgré le politique, bureaucratie, ce n'est pas un gros mot. Chez Weber, et la période actuelle montre fort bien comment les bureaucrates constituent l'un des remparts contre les errements possibles du gouvernement, du mauvais gouvernement. Car dans la crise sanitaire actuelle, c'est la bureaucratie qui s'est opposée aux errements d'un Donald Trump plus efficacement peut-être que le Parti démocrate, c'est elle qui a réussi à sauvegarder de la rationalité dans un moment où cette crise, comme toutes les grandes crises, menace de faire triompher la folie. Mais voilà, la raison n'est pas sans prix, elle n'est pas non plus sans coût. Et c'est pour cela que la rationalité est à la fois solution et problème. À la manière de ces réactions du corps qui peuvent tuer un malade en bonne santé, la rationalité peut paralyser une société à force de vouloir l'administrer.